On va essayer, Blin Eder, de parler chaque semaine un peu de la paracha. Il y a des demandes sur Internet qu'on parle un peu plus. On va essayer Blin Eder. La paracha que nous avons ici, c'est paracha de Vayera. Vayera, c'est Avraham Avinu se trouve 3 jours après sa Brit Mila. Il a 99 ans. Ce jour où on souffre le plus, c'est marqué le troisième jour, c'est le jour où on souffre le plus de cette opération, le plus faible. Et se trouve à la porte de sa tente. Sa tente s'est connue qu'Avraham Avinu, il était un grand Machnis Ohrim. Il faisait la mitzvah de Achnasat Ohrim, qui signifie faire inviter des gens. Inviter des gens. Juste en parenthèse, on va un peu parler de cette mitzvah ce soir. Inviter des gens, c'est pas. Famille que j'aime bien, je les invite pour Shabbat, et après, 2, 3 semaines après, ils nous réinvitent, nous rendent l'invitation, c'est très sympathique, et on parle, et on chante. Bon, ça aussi, c'est invité. Il faut honorer les gens qu'on invite. La vraie Achnasat Ohrim, on dit tous les matins que c'est une des choses qu'on reçoit les dividendes, les intérêts dans ce monde-ci. Mais le keren, le capital, reste pour l'âme là-bas. C'est une histoire très importante de chesed, dans laquelle excellait Avraham Avinu. On va voir ici, sur quelques lignes, à quel point, on sait que la Torah, peut, des fois, avec une lettre en plus, une lettre en moins, elle me dit des halakhot énormes. Et là, sur des lignes, on a peut-être une dizaine de versets, ce qui est énorme relativement à la Torah, on parle de comment Avraham invite 3 nomades inconnus. Et on voit des détails qui ont l'air tout à fait anodins, comment, qu'est-ce qu'ils vont manger, le menu. En fait, on vient nous enseigner maintenant vraiment l'importance de Achnasat Ohrim, de cette mitzvah. Avraham excellait dans le chesed. Chesed, c'est vraiment le don de soi, mais à des proportions extraordinaires. Cette mitzvah, alors, c'est bien sûr aussi quand j'invite la famille, des copains, etc. Mais c'est la petite mitzvah, la grande mitzvah, c'est quand quelqu'un n'a pas où dormir et on lui ouvre la porte. Et c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas d'habitude, et quelqu'un qui n'a pas les moyens, un pauvre, etc. Et tu ouvres la porte, tu lui la portes en grand, et tu lui fais vraiment tous les honneurs. Ça, c'est Achnasat Ohrim. Je crois que le seul cas qu'il y a aujourd'hui, c'est le cas qui est fréquent à l'étranger où des rabbanim vont, des pauvres rabbanim, qui des fois même pas, ne parlent même pas un mot de la langue autochtone, ni français, ni anglais, ou ils baragouinent comme ça, ils viennent, les pauvres, à faire un peu d'argent pour leur yeshiva, pour leur kollel, pour leurs enfants, pour je ne sais pas quoi. Et ils n'ont pas où dormir, et quelqu'un vient et leur fait l'hospitalité, c'est énorme. C'est marqué que celui qui ouvre la porte pour son prochain, ce prochain lui doit la vie, parce qu'il lui a vraiment donné la vie pendant. Il l'aide. Ça, c'est vrai, ou bien ici, quand en Israël, il y a des gens qui arrivent, c'est rare, d'habitude, ils vont à l'hôtel, ils vont à Eilat, ils vont à Netanya, d'accord. Mais il y a des gens qui n'ont pas où être, et tu l'invites chez toi à la maison, ça, tu fais la grande mitzvah d'Achnasat Ohrim. On parle vraiment de cas, la vraie mitzvah, toute est mitzvah, mais la vraie mitzvah dont on parle, qui est tellement extraordinaire, c'est celle de recevoir quelqu'un qui n'a pas où être. À l'époque, c'est très fréquent en Europe, les Juifs voyageaient d'un endroit à l'autre, il n'y avait pas d'hôtel, et tu ne pouvais pas te faire recevoir chez des non-juifs, il fallait manger cachère, etc. Il n'y avait pas de restaurant cachère. Donc il y avait invitation chez l'habitant. Donc il fallait que l'habitant hein, reçoive les gens bien, et ce n'est pas toujours le cas, tu comprends, quand tu reçois un. Surtout, prenons un exemple aujourd'hui en France ou en Amérique. Où les gens se plaignent que quand il y a des rabbanim qui viennent demander un peu d'argent, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 20, c'est pas 30, c'est 300, c'est 400, ça n'arrive pas, d'accord? Raison de plus d'être un grand Machnis Ohrim, d'être quelqu'un qui reçoit les invités.
Ah, c'est uniquement des gens qui sont de passage, ou ça peut être des gens qui sont chez eux seuls et qu'on fait venir?
Aussi, il y a une mitzvah là-dedans, c'est certain. Mais plus la personne, elle est en manque, et plus tu remplis ce manque, plus la mitzvah est grande, c'est certain. Certains, quelqu'un qui n'a pas où être Shabbat et tu l'invites, c'est un grand chesed que tu as avec lui, un grand chesed de la bienfaisance, de la bonté, d'accord? Kiten chesed l'Avraham, tu demandes du chesed d'Avraham. Avraham, c'est celui qui a amené dans le monde la Mida, la notion de chesed à un point extraordinaire. C'est-à-dire que une des voies dans lesquelles Dieu agit dans ce monde, c'est le chesed. Et Avraham est celui qui a amené cette voie de Dieu dans le monde parce qu'il a fait un chesed extraordinaire. Alors qu'à son époque, les gens étaient extrêmement. On parle de l'époque de Sodome et Gomorre, où les gens s'étaient interdits à Sodome et Gomorre de recevoir des invités. Lot, qui était donc le neveu d'Avraham, il va inviter les deux anges là-bas et il a failli se faire assassiner là-bas. Il a dû fuir. Dans les conditions où les gens sont extrêmement égoïste, quelqu'un qui vient et qui fait le chesed, ça a beaucoup plus, hein, comme une flamme dans l'obscurité, elle éclaire beaucoup plus qu'en pleine journée. Alors voyons voir, on va prendre le texte tout simplement. Et moi, une question que je me posais très souvent, et cet après-midi, en préparant le cours, là, je me suis dit, tiens, on va regarder. On voit qu'Abraham, il invite, bon, il est au port, bon, donc il a sa tente, c'est connu, sa tente était avec quatre ouvertures, parce qu'il va recevoir les invités, etc. Et il voit les trois, ce sont trois anges, mais il n'est pas au courant, ce sont trois, pour lui, ce sont trois nomades. Il va, il court, il les invite, et ils acceptent de venir chez lui. Et deux, trois pages plus tard, deux de ces anges vont à Sodome, et voilà, les anges sont arrivés à Sodome, le soir, et Lot se trouve, peut-être je vous lis le texte, vous allez voir, ça. Alors, bon, et Dieu se dévoila à Abraham, dans Elon Mamré, c'est l'endroit, la région dans laquelle il a fait la Brit Mila, et il est assis à l'ouverture de sa tente, à la porte de sa tente, à la chaleur du jour, c'est très chaud. Il leva ses yeux et il vit, voici trois personnes en face, il vit, il courut vers eux depuis la porte de sa tente et il se prosterne à terre. Il leur dit, mes seigneurs, si je trouve grâce à vos yeux, ne passez pas Ma'alavdecha, au-dessus de moi, ça veut dire, sans venir passer chez moi, qu'on amène un peu d'eau et lavez vos pieds et reposez-vous un peu sous l'arbre, je prendrai du pain et vous mangerez et après vous passerez, car c'est pour ça que vous êtes passé près de chez moi. Ils ont dit, Voyomrou, Ken, t'as assez, fais comme tu as dit. Bon, une invitation normale, à venir manger. Trois pages plus tard, les mêmes anges, donc plus, il n'était plus que trois, c'était plus que deux, étaient venus pour annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un enfant, était venu pour guérir Abraham, et un était venu pour renverser Sodome. Celui qui est parti pour renverser Sodome, il part à Sodome. Celui qui est allé pour guérir Abraham, il vient sauver l'autre, parce que c'est le même envoi. On parle ici maintenant de sauver. Ou bien tu sauves quelqu'un en lui envoyant la guérison, tu lui sauves la vie. Celui qui était venu pour annoncer à Sarah qu'elle allait être enceinte, lui, il est reparti. Il a fait sa mission. Donc, il n'y a plus que deux qui arrivent à Sodome. Et Lot est assis à l'entrée de la ville. Et Lot les voit, se lève vers eux, se prosterne à terre, il leur dit, voici mes seigneurs, venez chez moi, la maison de vos serviteurs, dormez, lavez-vous les pieds, et vous leverez demain, et vous partirez pour votre route. Voyons, ils ont dit, non, qui, on va dormir dans la rue. Moi je réponds, favoritisme, c'est quoi? Pourquoi Abraham, oui, pourquoi Lot, non. Alors, je me suis dit, j'essaie de regarder, est-ce qu'il y a des différences? Et puis, en fait, quand on commence à analyser, on voit beaucoup de différences. Quelques-unes, je vous les transmets ici. D'abord, les conditions. Lot, il est à la porte de la ville, c'est un juge. Tout va bien, il a ses serviteurs à côté de lui. Abraham, il a 99 ans, un vieux pépé, si je peux me permettre, qui vient de faire une opération chirurgicale, difficile, douloureuse. Il est complètement affaibli. Et Dieu, pour éviter qu'il y ait de le faire travailler trop, alors il sort le soleil, c'est marqué, il a sorti le soleil de son fourreau. Ce n'est pas 35 degrés, c'est au moins 40 degrés. Donc, température très, très, très élevée. Et Dieu, voyant qu'Abraham, il est mitzter, il a de la douleur qui n'est pas aucun invité, donc il a amené ces trois anges, qui aux yeux d'Abraham, ne sont pas des anges, ce sont trois nomades. Vaïsaenav, il lève ses yeux. Vaïar, et il voit, voici trois personnes en face de lui. Et il voit, et il court vers eux. Lot ne court pas. C'est marqué, il s'est levé devant eux. Il les a vus sûrement. Il arrive. Là, il se lève, fait honneur. Abraham, 99 ans, après opération chirurgicale, il fait une chaleur torride. Il est. Il va, il sait, c'est qu'il a levé les yeux, il allait voir loin, à un kilomètre. Il voit, c'est même pas Marky qui s'est levé, il a couru. La position, c'est comme dans les bandes dessinées déjà. Il est assis, les roues qui se mettent, il se met déjà à courir. C'est pas levé pour courir. Il court, un kilomètre. L'Ikratam, vers eux, on aurait pu croire qu'il a peut-être couru l'Ikratam quand il est arrivé vers eux. Alors la Torah rajoute, mi petach ohel, depuis la porte de la tente. C'est pas qu'il s'est mis à marcher et dans les 10 derniers mètres, il a fait un petit sprint comme ça pour montrer qu'ils en auraient. Depuis la porte de la tente, il court vers eux. Et il arrive par terre, devant 3 nomades. Un monsieur respecté Avraham Avinu avec une barbe de Avraham Avinu, d'accord. Par terre, devant eux. Veyomar, mes seigneurs, si vous voulez me faire plaisir, je trouve grâce à vos yeux. Il leur dit pas « Venez chez moi » comme il a dit Lot. « Venez chez moi. » Ne passez pas hors de chez moi. Une différence quand on dit à quelqu'un « Rends-moi service. Viens. » Bon, j'accepte de venir. Je t'en prie. Je t'interdis. Je te demande de ne pas passer hors de chez moi. C'est une invitation beaucoup plus forte. Surtout ne passe pas sans passer chez moi. C'est beaucoup plus insistant. Donc, l'invité, il est plus enclin à approuver ton invitation. Yukarna matmaim, juste un peu d'eau. Ça ne me fait rien du tout. Parce qu'à l'époque, c'était très dur. L'eau, il fallait aller puiser dans le désert. C'était très difficile. Un peu d'eau, comme ça, pour laver vos pieds. L'autre, il dit, venez, vous allez dormir chez moi, vous allez vous laver, prenez une douche et tout ça. Il fera tout ça aussi, Avraham Avinu. Mais pourquoi dire? Pourquoi dire? Mettre mal à l'aise. Viens, je t'invite, je vais te mettre la table, je vais te donner ta 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 ta. Le type, il est mal à l'aise. Non, mais pour moi, c'est rien, juste un peu d'eau, tu viens. Vishanu Tachataz, vous avez reposé un peu sous l'arbre. Lui, il a dit, vous avez passé la nuit entière. Vekra Patlechem, vous amenez un peu du pain. Quel menu il a fait? Et Tzadikim, la Gemara dit là-bas, c'est dans la Gemara Bava Metzia Pezaim. Elle dit, les Tzadikim, ils disent peu, mais font beaucoup. Ça, on pourrait faire un cours entier là-dessus. Parler. C'est connu, quand tu veux faire quelque chose, si tu parles déjà, ça enlève la moitié déjà de... Même de l'effet chez toi, ça enlève beaucoup de puissance. Les Rechaim, ils parlent beaucoup et ils font rien. D'où on apprend que les Tzadikim, ils parlent peu, ils font beaucoup, d'avoir ma vie. Parce qu'il leur dit, je vais vous donner du pain et un peu d'eau. Qu'est-ce qu'il a donné comme menu? Voyons la suite, attendez, peut-être je finis juste ici. Vesalou, l'Iprem, vous... mangerez, après quand vous serez déjà bien, vous pourrez partir. L'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez dormir, vishkam, levez tôt et vous allez partir. Ça veut dire, il n'a même pas invité à manger. Il n'a même pas dit à manger, vous allez vous laver, dormir, et demain matin vous partez. Et si on veut rester un peu plus? Lui dit, vous restez là, sadou l'iprem, quand vous serez bien, et après quand? Après, dans un mois, dans 2 mois, tant que. Vayemaher Abraham. Et Yemaher, il s'est dépêché à Abraham, vers la tente, vers Sarah. Il lui dit, Mahari, dépêche-toi, 2 fois. Fais Shalosh Seim Kemar. Shalosh Seim, c'est le calcul, c'est 24 kilos de farine. Pour 3 nomades. Ça va, combien ils vont manger? Louchi Vasiugot. Pétri, la pâte, c'est pas prêt dans le freezer, c'est le congélateur, c'est prêt. Vas-y, pétris et fais des gâteaux. Vers la baka, ras Abraham. Et vers le bœuf, les bœufs, cours Abraham. Cours! 3e fois que c'est marqué. En vitesse. Vers karben baka, rach vatov. Il prend un bœuf, rach vatov. 3 mots. Il a pris 3 bœufs pour en faire, pour donner à chacun des invités une langue à la moutarde. 3 bœufs. Langue à moutarde, Rachid dit sur place dans Bava Metzia, c'est le repas des rois et des princes. D'accord? 3 nomades, des falahim, des rien du tout, il les prend comme ça, il en fait des super princes. Vaitan la Nahar, il a donné à son fils Ishmaël pour l'éduquer. Vaimer la Sototo, rapidement il a fait, rapidement, 4 fois que c'est marqué rapidement. Vaikar Krima Vechalav, il prit du beurre et du lait, ou Ben Abakar et la viande, parce qu'à l'époque on pouvait mélanger. Asher Asa Beten Efnehem, il leur a donné. Vomed Alehem Tachat Ha'etz. Et il reste là-bas. Pas qu'il leur donne. Bye bye, je vous laisse tranquille. Il est là pour les servir. 4 fois c'est marqué rapidement. 4 fois rapidement. Une mission, on l'a fait rapidement. Combien leur a donné? 3 bœufs, 24 kilos de pain, du lait et du beurre. Maintenant, quand tu donnes du pain, 24 kilos, tu amènes combien de beurre? Il faut tartiner tout ce pain. Donc il y avait sûrement du beurre en conséquence. 2-3 kilos de beurre. Ça, c'est Arnasa Torah. D'abord, comment tu invites. Ensuite, tu fais rapide. Ensuite, tu dis que tu fais peu et tu fais énormément. Et tu es à l'aise avec eux. Tu es à côté d'eux. Les grands d'Israël, aussi grands qu'ils étaient en Torah, étaient grands en Chesed. Il y a beaucoup de gens qui sont grands en Torah. Mais quand tu es grand en Torah et tu n'es pas grand en Chesed, tu es out. Quand tu es grand en Chesed et tu n'es pas en Torah, c'est bien. Mais si on peut plus de Torah, c'est bien aussi. Mais l'idéal, c'est les deux à la fois. Être grand en Torah, être grand en Chesed, en aide de son prochain. Un des plus grands rabbins, on peut dire, c'était fin du siècle dernier, je parle fin 19e siècle, c'était Rav Chaim de Brisk. Hyper connu, un rabbin énorme. Son fils, c'était le Grise, le Gaon Rabbi Yitzhak Zehev Soloveitchik. Il raconte que son père, sa maison était Hefker. Tout le monde rentrait quand il voulait. Il se faisait aller à la cuisine, se servait, ouvrait le frigo, à l'époque, il n'y avait pas de frigo, mais l'armoire. Des gens venaient des fois des mois habiter chez lui, avec leur famille, avec leurs enfants. Et c'était bienvenu. Des fois, des femmes qui voulaient accoucher venaient là-bas spécialement. Elles savaient, parce qu'après l'accouchement, elles étaient peinards, c'était une maison de repos. Au frais, du rave, bien sûr. Des fois, il arrivait que le rave voulait dormir dans son lit, et quelqu'un qui dort déjà. Et il dormait sur un banc. Hefker, c'est Hefker désapproprié de sa maison. Mais juste une petite place qui était sa place pour prier. Ça, on savait que c'est la place du rave, personne ne peut s'asseoir là-bas. Le fils du rave racontait, le Gris a raconté que son père, il avait ordonné à tous ses enfants et à sa femme, jamais, même si les gens ils sont durs, ils sont embêtants des gens, déjà on te fait tout, sois un peu gentil des fois. Baruch HaShem, ça manque pas des gens très, très mal polis et je dirais même un peu gonflés, d'accord? Rien, toujours sourire. La seule fois on raconte que le rave, on a vu un peu un froncement de sourcils, c'est qu'il y avait une famille qui était venue depuis quelques mois avec leurs 10 enfants. Ça, c'est chez eux à la maison. Et lui, il vient prier un soir à Ravit, qui voit assis sur son fauteuil, Madame. Madame, elle est là, comme ça. Et il a dit, il n'a rien fait, il n'a rien dit. Mais on a vu un petit frisson de sourcil du genre, même ma place qui est pour moi, je n'ai pas droit. Ça, c'est un grand d'Israël. J'ai vu dernièrement, je suis en train de lire maintenant, il y a un livre qui est sorti sur le Rav Shach, écrit par son petit-fils. Le Rav Shach, c'est inimaginable, c'était... Il partait à l'Eshiva, une famille très pauvre, bien sûr, il arrive là-bas. Et la guerre, première guerre mondiale, a éclaté. Les conditions lamentables. Il n'y a pas de quoi. L'Eshiva, elle a fermé. Donc il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Lui avait rien. Il s'est fait piquer sa valise en route, il l'a rêvé. Il avait sa chemise et son pantalon et ses chaussures. Il était un petit gosse de 13-14 ans. Et il grandit. Ses chaussures, ses pieds commençaient à se sont éclatés. Il n'avait pas de quoi. Alors, avec des ficelles, il tenait comme ça, les doigts des pieds qui sortaient. La chemise. Elle noircissait, alors qu'est-ce qu'il faisait? On empruntait un moto à quelqu'un, il le mettait dessus, il se mettait tout nu, et il avait sa chemise une fois par, je ne sais pas, pour Shabbat. Alors il mettait la chemise à l'envers, parce que le col était un peu moins noir. Pendant un an et demi, il ne s'est pas coupé les cheveux. Il n'y avait rien, c'était la guerre, il n'y avait rien du tout, rien. Il étudiait sans cesse. Étudiait Torah sans cesse. Complètement un petit gosse de 14-15 ans à l'époque. Inimaginable. Après, il y a la révolution russe qui a commencé, 1917, c'était encore pire. Encore pire. Le Rosh Yeshiva, le Rav Isar Zaman Meltzer, qui après a été par alliance l'oncle du Rav Shach, on appelait Avia Yeshivot, c'est le père des Yeshivot, un très très grand rabbin, il a fait demander le gosse qui vienne et qu'il habite chez lui à la maison, alors qu'eux n'avaient pas de quoi se nourrir. Le Rav Isar Zaman Meltzer, lui et sa femme n'avaient pas de quoi se nourrir, il voulait absolument amener quelqu'un. Il a dit, la situation est très grave, très dangereuse, j'ai besoin à la maison de protection. On va prendre quelqu'un qui a besoin chez nous à la maison. Le Rav Shach dira plus tard, j'étais le talisman du Rav Meltzer. C'était un truc de protection comme ça. Achnasat Ochim, quand les conditions les plus dures maintenant, tu vas. Rav Moshe Feinstein, un des plus grands rabbins de ce siècle, Rav Moshe Feinstein, lui, il a quitté la Russie en 1936. Donc il a vécu vraiment presque donc, 19 ans de régime bolchevique terrible. Et il était poursuivi terrible. Il s'est caché pendant quelques mois, il a été invité chez le cordonnier de sa ville. Le cordonnier avait une maison grande comme la moitié de cette chambre. D'accord ? Rien. Sa famille et la famille du rab. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont partagé. Il est venu avec des planches, il a fait une chambre dans la chambre. Il y avait une partie qui était pour le cordonnier et l'autre pour Moshe Fein. Des conditions très difficiles. Mais, en régime communiste poursuivi, le cordonnier opposé, moi je dois sauver ma vie. La Torah dit très bien, entre ma vie passe avant. T'as deux personnes dans le désert, t'as une gourde, qui la garde, celui qui l'a. Ma vie passe avant la tienne. Si on peut sauver les deux, ok. Mais sinon, ma vie passe avant, parce que chacun peut dire ça. On a vu des juifs dans des conditions de danger extrême faire mitzvah d'Achnasat Orim. Achnasat Orim, ils ont compris. Ça, c'est chesed. Quand je fais du chesed, quand je fais du bien à l'autre, alors j'ai les chances d'être sauvé. On voit ça dans le déluge. Chazal raconte que les enfants de Shem, Shem c'était un des fils de Noah, de Noé, qui était dans la Teva, dans l'arche de Noé. Ils ont dit, par quel mérite vous avez été sauvé? Il leur a répondu, c'est ce que nous avons fait. Pendant un an, c'était que du chesed. On devait sans cesse, à chaque instant, s'occuper de nourrir tous les animaux. La girafe, le lézard. Une fois, mon père était en retard, alors le lion, la griffe, et depuis, il était boiteux. Fallait chaque on était complètement exténués. On était morts de tout ce qu'on donnait à tout le monde. Fallait nourrir tout le monde à temps sans cesse. Pas une seconde de repos. Pourquoi est-ce qu'ils ont été sauvés? Dieu est en train d'effacer le monde entier. Par quel mérite on vous sauve? Chesed. Actuellement, nous savons que dans le monde va très mal. On dit midatadin metoucha, le din, la rigueur de Dieu est extrêmement tendue. La seule chose qui peut adoucir le din, c'est le chesed. Un grand rabbin raconte qu'une fois il était là en Amérique, il a rencontré là-bas un juif, un docteur, complètement assimilé. Mais encore juif. Racontez, vous savez, quand j'étais jeune, j'étais à l'yeshiva de Hafetz Chaim, à Radin. J'ai été là-bas une journée exactement. Je voulais me faire recevoir pour finir, j'ai pas été reçu. J'avais déjà un peu des idées pas très cachères, alors j'ai pas été reçu. Et durant ma vie, j'ai plusieurs fois eu l'occasion et j'ai hésité de me convertir au christianisme. Et chaque fois, quand j'ai pris la décision que oui, je vais le faire, il y a une chose. J'ai vu une image qui m'a arrêté. Qu'est-ce que c'était? Quand j'ai refusé de rentrer à l'Yeshiva, alors même dormir, je n'ai pas pu, le Chafetz Chaim m'a invité chez lui à la maison. Je me suis endormi. Et pendant la nuit, j'avais froid. Et j'étais à moitié endormi comme ça en arrivant. Du coup, j'ai senti quelque chose de chaud. C'est le Chafetz Chaim qui est rentré dans ma chambre. Il a pris son propre manteau et il l'a mis sur moi. Et cette chaleur. Parce qu'il faisait froid dans la maison de Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, je l'ai vu après, il étudiait dans la chambre, c'était dans le grenier de Chafetz Chaim, il étudiait, lui, sans manteau, dans le froid, sans le manteau. Et moi, j'avais le manteau. Et cette chaleur du manteau de Chafetz Chaim, chaque fois que je voulais me convertir, elle revenait devant mes yeux et ça m'empêchait de me convertir. Comment un acte de chesed chez un enfant, chez un jeune homme, à quel point ça peut avoir une portée éternelle. C'est une histoire que j'ai lue encore hier d'un livre que je recommande énormément. Je recommande la lecture. Ça s'appelle Le patron avant tout. C'est l'histoire d'un tzaddik, le Rav Yaakov Yosef Herman, raconté par sa fille, Madame Ruhama Shein. Lui est appelé le tzaddik des États-Unis. On l'appelle le Chafetz Chaim des États-Unis. Chafetz Chaim, c'est Chafetz Chaim, d'accord. Un des plus grands rabbins du siècle dernier, mort en 1933, le dirigeant incontesté du peuple d'Israël jusqu'en 1933, dirigeant spirituel. Alors on l'appelle le Chafetz Chaim d'Amérique. C'était un grand sadique, il a jeûné la majorité des jours de sa vie, il était en jeûne, et il excellait dans Achnasat Orim, dans l'accueil des invités. Et elle raconte qu'un jour, son père rentre à la maison, il appelle sa femme, allez, viens voir, regarde le journal. Il y a deux grands rabbins, le grand rabbin de la yeshiva de Kamenitz, c'était le Rav Leibovitch, et son chatan, et son gendre, le Rav Grabowski, qui viennent à, c'est marqué dans le journal, ils arrivent aujourd'hui en Amérique, à New York, et à 11h, leur bateau va ancrer, et ils iront à l'hôtel Broadway City, Central Broadway. Ils regardent la montre, ils voient, pour l'ancrage au port, c'est fichu. Ah, c'est C'est tellement dommage. Sûrement, ils vont être invités, quelque part, ils vont aller à l'hôtel. J'aurais tellement voulu qu'ils soient invités chez nous. Hey, tu rêves. Tu crois que... tu as vu un peu notre maison, cette table qui branle, les fauteuils, tout à moitié déchiré. Bon, on fait un satochi, mais ces grands rabbins, ils vont à l'hôtel, ils ont raison. Mais tu ne te rends pas compte, tu dis. Et l'occasion de recevoir deux grands personnages comme ça qui viennent depuis l'Europe ici, on ne les a pas chez nous, c'est intolérable une chose pareille. Il dit à sa fille, comme ça raconte sa fille, « Ouhama, viens, habille-toi, tu viens avec moi, on part tout de suite. » Elle s'habille, la fille, hop, ils partent, ils prennent le métro, ils arrivent près de l'hôtel, ils voient une cohue, beaucoup de monde, ils entendent le rave, se trouve au deuxième étage, « Oui, on ne reçoit personne, que demain, il est très fatigué, personne ne peut rentrer, etc. » La fille dit à son père, « Papa, laisse tomber, c'est pas... » Il répond même pas, il avance, elle se ferait un chemin derrière lui, comme ça, il traverse toute la cohue, il arrive au deuxième étage, les gens parlent dans le couloir, tout ça, il tape à la porte, on ouvre, on lui dit, le rave ne peut pas recevoir, il est très fatigué, juste une minute, je dois lui parler. Non, écoutez, demain. Tout à coup, quelqu'un le voit de dedans, il dit, venez, c'est vous êtes le rave Herman? Je suis le rave Herman, celui qui fait Hachnasa Torim, rave Herman de East Side, je ne veux pas dire celui qui fait Hachnasa Torim. Eh bien, vous tombez bien, venez. Les deux rabbinim le voient. Il dit, vous êtes Rav Herman? Oui, Bochim Abaim, bienvenue, je vous invite chez moi à la maison. Eh bien, on accepte votre invitation. La fille ne comprend pas ce qui se passe. Elle voit son père très heureux, mais il ne montre pas qu'il est surpris. Alors, il devrait être très, très, très surpris. Juste 5 minutes, le temps qu'on se prépare, ils font les valises, et ils partent dans la voiture des deux rabbinim, avec le conducteur habillé en uniforme, etc. Et ils arrivent à la maison, le père dit à sa fille, monte vite à maman quand on arrive, les rabbinim sont là, elle monte là, elle dit, maman, ils arrivent, les rabbinim arrivent. La mère, elle dit, avec un regard fier, comme ça raconte sa fille, qu'à papa, franchement, qu'est-ce qu'il arrive, extraordinaire, qu'est-ce qu'il arrive à faire. Et pas les rabbinim arrivent, avec toute la cohue qui rentre chez eux à la maison, et vas-y, donne à manger à tout le monde, etc., etc. Quelques semaines passent, les rabbinim sont toujours là-bas, parce que là-bas, c'était vraiment ouvert. Et la mère n'a pas tenu le coup. Elle a dit, comment ça se fait que mon mari a réussi? Donc elle va le voir et dit, comment ça se fait que vous êtes arrivé chez nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, on parle d'endroits, des gens qui peuvent... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont plus riches que nous, qui peuvent recevoir comme il faut. Quel mérite on a que vous êtes venu chez nous à la maison? Alors le Rav raconte que lui ne pensait jamais venir à New York. Il habite à Kamenitz, c'est en Russie. La situation était tellement déplorable à l'Eshiva, il n'y avait pas d'argent. Ils ont un meshoulah, un type qui est censé, un envoyé de la Yeshiva, qui va dans les villes, justement en Amérique, etc., demander de l'argent pour la Yeshiva. Il était malade. Il ne savait pas quoi faire. Il s'est dit, il faut absolument que le Rav lui-même, il parte. Ok, je suis d'accord de partir, mais à New York, ce n'est pas possible. Je ne connais personne, et puis au niveau de la cachoute, ce n'est pas comme il faut. Le meshoulah a dit, l'envoyé a dit, il n'y a aucun problème. Il y a un tzaddik là-bas. Un grand Yerushalmi, la grande crainte de Dieu, il s'appelle le Rav Yaakov Yosef Herman, Povel chez lui, il va se voir comme il faut, c'est hyper cachère, aucun doute à se faire, aucun souci à se faire. Ok, alors on va lui écrire une lettre s'il autorise qu'on vienne chez lui. Pas besoin, il viendra déjà vous recevoir, au port vous serez là déjà, il viendra vous inviter. Et quand tu es arrivé au port, on a vu que vous n'étiez pas là, tu es très très inquiet, tu es arrivé à l'hôtel, personne n'est là. Attends, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce que vous êtes arrivé comme un ange. Maintenant, il faut faire attention. On fait du chesed, mais nous, on doit le faire. Et pas faire le chesed aux autres. Lui, il allait lui-même, il cuisinait, il faisait les achats. Sa femme l'aidait beaucoup, bien sûr, les deux, mais ensemble. C'est intéressant de voir, c'est marqué ici, Yukar Meat Maim, qu'on n'amène un peu d'eau par quelqu'un d'autre. Alors la Gemara, elle dit qu'on amène un peu d'eau par quelqu'un d'autre, c'est marqué que tout ce que lui a fait lui directement, alors le peuple d'Israël en a profité directement. La Gemara, elle dit comme ça. Lui-même a amené la nourriture, Dieu même a amené lui-même la nourriture, la manne. Lui-même, il était proche d'eux, voir qu'ils mangent comme il faut. De même, alors Dieu était proche du peuple d'Israël, il les accompagnait. De même, il les a raccompagnés. De même, Dieu allait aussi, il y avait devant et derrière des nuées qui les accompagnaient. Yukar na ma'akman, qu'on amène un peu d'eau, c'est pas lui-même qui a amené l'eau, alors aussi, c'est pas Dieu lui-même qui a amené l'eau, il y avait un envoyé aussi, c'était Moshe qui a dû frapper le rocher, et l'eau elle sortait. Ça c'est un des aspects qu'il y a. Alors, juste en parenthèse, il faut un peu comprendre. Comment c'est ce qu'on voit? Ok, Abraham, il a reçu les invités. à cause de ces invités qu'il a reçus une fois comme ça, on a droit, tout administré a droit à la manne, a droit à voir l'eau qui vient, qui est nuée devant, nuée derrière, que Dieu se trouve avec eux. Il a invité, c'est bien. Mais... Alors on explique comme ça. C'est pas qu'il a invité, il a invité toute sa vie, il a invité. Mais là, dans les conditions. Normalement, tu as des conditions normales d'invitation. Mais quand quelqu'un, il fait des choses qui sont anormales, c'est-à-dire que tu as la nature, puis au moment, naturellement, c'est fini. Quelqu'un qui a craqué 99 ans, après opération chirurgicale, troisième jour, 40 degrés à l'ombre, eh bien, il invite personne. Et surtout pas trois nomades qui sont de passage. Quand il a fait ça, il a dépassé les limites de la nature, devenu surnaturel. Quand on fait un acte surnaturel, alors Dieu rend l'appareil surnaturel. On a droit à la manne surnaturelle, on a droit à l'accompagnement de Dieu surnaturel, etc. Ça, c'est une explication qu'on a sur le fait qu'il amène un peu d'autre. Autre explication, plus au niveau qui nous concerne à nous, quand tu fais du chesed, pas sur le dos des autres. Quand c'est toi et ta famille, alors ça va. Mais aller maintenant amener la servante pour va chercher de l'eau, beaucoup d'eau, pour qu'il puisse prendre une bonne douche, non, un peu d'eau. Et là, un exemple aussi extrêmement beau à ce niveau. Le Rav Israël Salant, qui était donc le grand rabbin du siècle, au 19e siècle, le grand rabbin du peuple d'Israël, mais qui a lancé cette noix à Moussard, qui était très aussi sur l'accent qu'il fallait mettre sur les relations entre l'homme et son prochain. Un jour, un élève a voulu l'inviter. Et lui, il n'aime pas être invité. Avant qu'il sache exactement qui, quoi, comment, qu'est-ce qu'il va manger, comment ça va être, tout, que tout soit vraiment parfait. Alors, l'élève lui explique, il n'y a aucune crainte, j'achète la viande à cet endroit-là, là, c'est cette cacheroule comme ça, et puis la cuisinière, c'est une femme, une veuve qui était mariée à un Talmid Chacham, elle connaît toute la Torah bien comme il faut, elle s'occupe tout comme il faut, et en plus, ma femme est là, elle vérifie tout sera impec, et puis on fait un repas comme il faut, avec des vrais Torah, le Shulchan Aruch, après on fait des mirotes, on finit tard dans la nuit, tout comme il faut, bien, cachère, un super repas. Bon, le rabbin dit, j'accepte. Mais une condition. Moi, je veux bien tout, mais pas le tard dans la nuit. Vous finissez 2 heures avant temps. Vous finissez à minuit. Là, je veux 10 heures, terminé, plus rien. Bon, si le professeur le rave, on accepte toutes les conditions. Alors, ils font petite douche, et après, ça va hors d'œuvre, poisson, soupe, trinque, dessert, tic-tac, un petit chambre, terminé, 10 heures, Birkat Amazon. L'élève demande au rave, c'est bon, c'était bien? Comment vous trouvez ça? Je me comporte comme il faut dans ma maison? Il dit, oui, mais si tu veux vraiment entendre la remarque que j'ai à faire, ah non, s'il te plaît, j'aimerais remercier et m'excuser auprès de la cuisinière, qui est la pauvre, je l'ai fait travailler tellement. Alors, vient la cuisinière, je vous remercie beaucoup, vraiment, je vous bénis, excusez-moi qu'on a fait si vite, vous avez dû enchaîner un repas après l'autre, comme ça, pas comme d'habitude. Que vous soyez bénis, Kvodarav. Chaque fois, je suis tellement fatigué, tout le vendredi, je travaille, et maintenant, je dois servir jusqu'à minuit, je suis complètement, mes jambes, elles flageolent, je ne tiens plus debout, et là, grâce à vous, je peux aller 2 heures plus tôt aller dormir, que Dieu vous bénisse. Elle repart. Tu vois, c'est ça ma remarque. Tu fais un gros pas de Shabbat avec tout le tralala comme il faut sur le dos de la servante, la veuve qui est fatiguée. Alors qu'est-ce que tu manges maintenant? Comment Dieu y voit ta mitzvah? Baruch Adonai, l'homme amen va amen.